trouver Anne Verdaguer pour le journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour Anne.
Bonjour Joanne, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur l'épidémie de coronavirus qui n'en finit pas de progresser aux États-Unis, notamment en Floride. Les familles de Cubains s'inquiètent pour leurs proches sur place. On entendra la correspondance de Domiti Piron à La Havane. On ira au Mexique pour parler de la première visite du président mexicain Andrés Manuel López Obrador aux États-Unis pour rencontrer Donald Trump. Au Mexique également, cette avancée majeure dans l'enquête sur les disparus d'Iguala qui remet en cause la thèse officielle. On en parlera avec Marie Normand. Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron. On décortiquera le nouveau code pénal haïtien avec la notion d'orientation sexuelle qui sera désormais une circonstance aggravante. Autre changement de taille, la dépénalisation de l'avortement sous certaines conditions. Aux États-Unis, la barre des 130 000 morts du coronavirus a donc été franchie. Les cas de contamination continuent d'augmenter, notamment en Floride où la situation est critique dans de nombreux hôpitaux. La Floride où réside, vous le savez, un très grand nombre d'exilés cubains. Alors à 300 km de Miami, à La Havane, c'est l'inquiétude qui règne parmi les familles qui ont des proches aux États-Unis. Les autorités cubaines considèrent de leur côté l'épidémie sous contrôle. Cuba, qui a entamé la semaine dernière son déconfinement en toute sécurité. Un tableau bien différent de ce qu'il se passe aux États-Unis, pardon, en Floride, Domiti Piron à La Havane.
Enfin libre, voilà trois mois que Juana n'avait pas mis les pieds dehors. Cette grand-mère sort prendre l'air avant d'appeler comme chaque jour sa famille à Miami qui la préoccupe. La cousine de Juana Pérez González, son mari et leurs enfants ont tous attrapé le coronavirus lors d'une sortie piscine il y a deux semaines.
Moi, cela m'effraie, mais elle me dit de ne pas m'inquiéter parce que ce n'est qu'un mauvais rhume. C'est une idiote, c'est irresponsable. Et cette irresponsabilité est incarnée par leur président qui devrait donner l'exemple.
Juana explique que pour se soigner, sa famille de Miami recourt à l'automédication. Plus d'1,2 million de Cubains sont installés en Floride où l'accès aux soins de santé est ce qui préoccupe le plus ici. Lucia a eu deux fils, l'un exilé en Espagne, l'autre aux États-Unis.
Nous, ici, nous sommes privilégiés parce que la santé est gratuite dans notre pays. Je pense tout simplement que nous sommes plus en sécurité que là-bas parce que nous sommes mieux préparés et beaucoup plus disciplinés.
Port du masque et isolement des personnes vulnérables obligatoires, fermeture de toute activité récréative. Seuls les magasins d'alimentation sont restés ouverts durant la pandémie. L'approche cubaine a été beaucoup plus radicale, mais semble-t-il plus efficace. L'île compte à ce jour 86 décès. Domiti Piron, La Havane, RFI.
Voilà, et j'ajoute dans l'actualité liée au coronavirus que le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé avoir contracté le Covid-19 après avoir été testé positif. On en parlait hier, mais il dit être en bonne santé. Les États-Unis, de leur côté, ont annoncé avoir confirmé auprès de l'Organisation mondiale de la santé leur retrait de l'institution. Le président américain avait accusé l'OMS d'avoir tardé à réagir après l'apparition du virus en Chine en décembre dernier. Direction le Mexique à présent pour parler de la visite du président Andrés Manuel López Obrador qui va rencontrer aujourd'hui pour la première fois son homologue américain à Washington, Donald Trump. On retrouve notre correspondante à Mexico, Alix Hardy. Alix, au programme, le nouvel accord de libre-échange nord-américain qui remplace l'ALENA depuis le 1er juillet, une visite en pleine pandémie de coronavirus.
Oui, d'ailleurs, même le voyage pour se rendre à Washington n'a pas été une mince affaire. Depuis son arrivée au pouvoir, Andrés Manuel López Obrador refuse d'utiliser son avion présidentiel qu'il considère comme un symbole de l'incurie des précédents gouvernements et qui est à vendre. Pour se rendre à Washington cette nuit, il a donc dû prendre un vol commercial avec escale. En pleine pandémie, cela envoie un message de désinvolture de la part d'un président dont le pays est fortement touché par le coronavirus. Le Mexique a dépassé les 30 000 morts officiels, mais plusieurs rapports suggèrent que le bilan pourrait être bien plus élevé. Aux États-Unis, qui viennent de claquer la porte de l'OMS, la pandémie n'est pas non plus sous contrôle. La photo de ces deux chefs d'État en train de se serrer la main pendant que le coronavirus menace d'engloutir leur pays pourrait bien rester dans les annales.
Et autre élément qui risque de parasiter cette rencontre, les États-Unis sont à 4 mois de l'élection présidentielle.
Oui, c'est ce qui fait dire à de nombreux experts que López Obrador a plus à perdre qu'à gagner en se rendant à la Maison-Blanche. En effet, Donald Trump est focalisé sur la présidentielle qui arrive et susceptible d'agir uniquement en fonction de cet objectif. D'autant plus qu'il est en mauvaise posture dans les sondages face à son adversaire démocrate Joe Biden. Il risque d'y avoir peu d'espace pour avancer sur la relation bilatérale. En plus, au Mexique, on garde un très mauvais souvenir de la dernière rencontre d'un chef d'État avec Donald Trump. En 2016, quand il était candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump avait été reçu par le président mexicain de l'époque, Enrique Peña Nieto, qui lui avait déroulé le tapis rouge. Pourtant, Donald Trump avait déjà des mois d'insultes aux Mexicains à son actif, et quelques heures à peine après sa visite à Mexico, Trump avait déclaré que même si le Mexique ne le savait pas encore, ce serait lui qui paierait pour son fameux mur à la frontière. Une humiliation que le Mexique n'a pas oubliée.
Et pourtant, le président mexicain, Alix, est persuadé qu'il est possible d'entretenir d'excellentes relations avec son voisin du Nord.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'AMLO ait choisi de se rendre à Washington pour son tout premier déplacement en dehors du Mexique. Il faut dire aussi que López Obrador entretient une espèce de relation plutôt cordiale avec Donald Trump. Ils ont plusieurs points communs dans leur conception de l'exercice du pouvoir, comme le rejet des contre-pouvoirs, leur attitude envers la presse ou un certain populisme. Mais malgré l'estime que les deux hommes se portent, la relation entre les États-Unis et le Mexique reste totalement asymétrique. Depuis son arrivée au pouvoir, la stratégie d'AMLO a été de ne pas entrer en conflit avec Donald Trump. Une docilité toute pragmatique qui a porté ses fruits. Enfin, il faut tout de même rappeler que le Mexique a payé très cher sur le plan migratoire, puisque l'an dernier, sous la menace de lourdes taxes douanières, le Mexique a déployé ses soldats pour stopper le flux migratoire venu des pays du Sud pour le compte des États-Unis. Aujourd'hui, maintenir les relations entre les deux pays au beau fixe est crucial pour une raison, la crise économique qui se profile au Mexique. Le PIB doit se contracter entre 7 et 10% cette année. Il est crucial que les investisseurs américains soient au rendez-vous.
Alix Hardy, notre correspondante à Mexico. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques et on reste au Mexique avec cette avancée majeure dans l'enquête sur les disparus d'Iguala.
Oui, bientôt 6 ans que ces 43 étudiants de l'école d'Ayotzinapa ont disparu dans l'état de Guerrero, dans le sud du Mexique, alors qu'ils se trouvaient à bord de plusieurs autocars pour aller manifester à Mexico. Alors hier soir, coup de théâtre, le procureur mexicain chargé de l'affaire a annoncé que les restes de l'un d'entre eux avaient été formellement identifiés par l'Institut autrichien. Il s'agit de Cristian Alfonso Rodriguez Telumbre, 19 ans à l'époque. Et ce qui est déterminant, c'est l'endroit où ces restes ont été retrouvés, à savoir le ravin de la Carniceria, souligne le journal La Razón, soit à près d'un kilomètre de la décharge de Cocula, ce qui invalide totalement la version officielle des faits présentés par l'ancien gouvernement du président Enrique Peña Nieto. Les enquêteurs à l'époque soutenaient que les étudiants avaient été incinérés dans cette décharge, une version toujours rejeté par les familles des victimes. Rafael Moran, de la rédaction de RFI en espagnol, a joint Omar Garcia, un ancien étudiant de cette école.
C'est une avancée significative, car cela remet définitivement en cause la version qui nous était présentée comme officielle par l'administration précédente. Ces restes humains ayant été localisés dans un lieu différent de la décharge de Cocula, on ne peut plus croire l'idée selon laquelle mes camarades ont été incinérés. Il reste encore beaucoup de choses à faire en matière d'investigation. Il faut réaliser d'autres recherches pour déterminer qui a amené Christian dans ce lieu, ce qu'ils ont fait de lui, etc. Mais on sait combien cette affaire est complexe et nous savons que l'administration passée a fait beaucoup de mal à l'enquête.
Voilà, et le journal La Razón cite le sous-secrétaire aux droits de l'homme. Pour lui, la seule vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est l'ouverture, dit-il, d'une nouvelle phase de l'enquête. La CIA Rota revient d'ailleurs sur les nombreuses irrégularités de la précédente enquête, notamment l'emploi de la torture pour arracher des aveux à de supposés complices, des faits qui, selon ce média mexicain, étaient connus du président de l'époque, Peña Nieto. La CIA Rota précise que l'actuel président, Andrés Manuel López Obrador, rencontrera les familles des victimes ce vendredi.
Direction les États-Unis à présent, Marie, où je vous le disais, le coronavirus sévit toujours avec l'annulation de la foire de Dallas au Texas.
Oui, et ce n'était pas arrivé depuis 1945, explique le Dallas Morning News. Mais selon le conseil d'administration, c'était la décision la plus sûre et la plus responsable face à l'évolution encore incertaine de la pandémie. Alors, cette annulation, Anne, peut paraître anecdotique, mais pas du tout. L'impact économique pour Dallas est énorme. La foire a accueilli 2 500 000 visiteurs l'année dernière. Et selon une étude citée par le journal texan, la foire génère entre 410 et 499 millions de dollars, ce qui en fait l'un des événements les plus importants des États-Unis. plus important que le célèbre Super Bowl, vous savez, la finale du championnat de football, qui ne génère pour la ville qui l'accueille qu'environ 400 millions de dollars.
Dans la presse également, Marie, les États-Unis, je vous le disais, qui claquent officiellement la porte de l'OMS.
Oui, départ largement condamné par les experts dans le domaine de la santé, écrit le New York Times, et qui coupe l'une des plus importantes sources de financement de l'OMS en pleine pandémie. C'est l'Amérique contre le monde, résume le Washington Post. Le candidat démocrate, à la Maison-Blanche, Joe Biden, assure qu'il annulera cette décision s'il est élu le 3 novembre.
En Colombie, Marie, le président Iván Duque a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au 1er août prochain avec certaines mesures d'assouplissement.
Oui, avec l'ouverture de certains commerces impossibles comme les restaurants, les théâtres, les gymnases, explique Semana, dans des municipalités en tout cas qui ne sont que peu ou pas du tout touchées par le Covid-19. Le président Duque a précisé que sur les 1100 communes de Colombie, 490 par exemple ne sont absolument pas affectées par le nouveau coronavirus. Mais ce qui fait la une de la presse en Colombie, Anne, c'est cet énorme raté.
206 ne servent. Tienen un problema en el software.
Voilà, ça c'est la voix de Claudia López, la maire de Bogota. Elle explique que sur les 305 respirateurs livrés par le gouvernement à sa ville, 206 sont inutilisables. Dans cette vidéo publiée hier soir sur son compte Twitter et partagée par El Tiempo, elle pointe un problème dans le logiciel qui accompagne ces machines venues de Chine. Et résultat, seuls 99 respirateurs ont pu être installés, ce qui n'a pas vraiment aidé, explique Semana, à faire baisser le taux d'occupation des lits en réanimation. Ils sont proches de la saturation dans la capitale.
Et on termine avec la démission du vice-président en Équateur. Il n'aura tenu que 18 mois.
Et c'est déjà le troisième vice-président à rendre son tablier, note la presse équatorienne aujourd'hui. Les deux précédents avaient dû démissionner à la suite de scandales de corruption. Otto Sonnenlanzer avance, lui, des raisons personnelles. 4 vice-présidents en un seul mandat présidentiel, ce n'était pas arrivé depuis le retour de la démocratie en Équateur en 78, note un historien cité par El Comercio. Et cette démission chamboule le paysage politique, titre Laura, car dans son discours, ce vice-président démissionnaire a laissé la porte ouverte à une éventuelle candidature à la présidentielle. Ce sera en février prochain.
Merci beaucoup Marie-Normand pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Et on retrouve à présent Amélie Baron, notre correspondante en Haïti. Haïti qui dispose d'un nouveau code pénal depuis la semaine dernière et le texte suscite déjà un large débat et de la polémique, même si peu de personnes n'ont encore pris le temps de le consulter. Et cela pour plusieurs raisons, Amélie.
Sur le plan littéraire, quel que soit le pays, un code pénal n'est tout d'abord clairement pas le livre de chevet rêvé. Si l'on ne tourne pas les pages avec la même avidité que lorsqu'on a un roman de Yannick Lahens ou d'Evelyne Trouillot entre les mains, il n'empêche que l'ouvrage est plus que nécessaire. Tous savaient qu'il y avait urgence à moderniser ce texte majeur du droit haïtien, car le précédent code pénal datait de 1835. En près de 2 siècles, la société haïtienne, le monde a évolué. Signe d'un autre temps, le nouveau code pénal abroge les lois anticommunistes de 1936, 1948 et 1951. Mais aussi utile qu'il soit, ce code pénal n'est actuellement pas décortiqué par tout un chacun en Haïti, car si on dit bien que nul n'est censé ignorer la loi, ce livre n'est nulle part disponible gratuitement. Aujourd'hui, pour se procurer un exemplaire auprès des presses nationales, il faut payer 8 250 gourdes, soit environ 65 euros. Dans un pays où 60% de la population survit sous le seuil de pauvreté, avec tout juste ou pas même 2 euros par jour, ce tarif est définitivement prohibitif.
Alors Amélie, quelles sont les grandes nouveautés apportées par ce nouveau code pénal ?
Plusieurs chapitres et articles font leurs apparitions et modernisent définitivement la justice haïtienne. Il faut par exemple noter que le droit statue désormais en matière d'éthique biomédicale. Les notions d'interdiction du clonage, de la recherche sur embryon ou encore de la vente illicite d'organes étaient évidemment absentes de l'ancien code pénal haïtien publié, rappelons-le, en 1835. Ces thèmes pourraient et pourront sans aucun doute animer de longs débats en Haïti, mais ça n'est pas sur cela que les passions se cristallisent aujourd'hui. Non. Ce qui capte l'attention des échanges autour du nouveau code pénal, c'est tout d'abord la notion d'orientation sexuelle. Le texte considère que si un meurtre, une violence, un acte de torture est commis ou une menace est prononcée à raison de l'orientation sexuelle de la victime, alors les peines encourues sont plus lourdes. En clair, le caractère homophobe d'un acte criminel est considéré comme une circonstance aggravante. L'autre nouveauté de taille apportée par ce code pénal est la dépénalisation de l'avortement. La formulation de l'article 328 est subtile mais limpide en matière de ce que le droit va reconnaître quand le texte entrera en vigueur. Dans la section de l'interruption illégale de grossesse figure cette phrase. Il n'y a pas infraction lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme est en danger. Alors qu'aujourd'hui, en aucun cas, une femme ne peut avorter.
Alors cette modernisation du droit haïtien suscite la colère des religieux et des conservateurs, Amélie.
Dans une note de contestation, le secteur catholique a déclaré que ce texte est éthiquement et moralement inacceptable, que l'on cherche, je cite, à importer des valeurs étrangères et extérieures aux bonnes traditions haïtiennes. Face à ces premières critiques, le Premier ministre Joseph Jout a, dans un entretien avec le journal Le Nouvelliste, rappelé qu'Haïti était un pays laïque et que l'État se devait de protéger les minorités. Au-delà du secteur religieux, certains politiciens ont délivré des déclarations populistes et parfois largement mensongères sur ce que contenait le code pénal. Et comme très peu de personnes ont lu ce nouveau code, leurs propos ne sont pas contredits. Le président de la République a indiqué qu'il y allait avoir des discussions pour éviter justement ces confrontations, car s'il a été publié par décret, le nouveau code pénal n'est pas encore entré en vigueur. Il ne le sera que dans 2 ans, et cela si d'ici là, les parlementaires ne révisent et ne réécrivent pas l'ensemble de chacun des 1035 articles. Cela représenterait un immense travail et rappelons-le, pour l'heure, le Parlement est dysfonctionnel car il n'y a plus un seul député et seulement 10 sénateurs en poste.
Merci beaucoup Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince. L'actualité des Outre-mer avec le journal La Première présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en Guyane, la courbe de l'épidémie de Covid-19 semble se tasser depuis quelques jours.
Oui, il faut évidemment rester prudent, selon l'expression consacrée. Le pic de l'épidémie n'étant pas encore atteint, mais l'augmentation du nombre de cas serait plutôt en train de ralentir. Ce qui n'étonne pas vraiment Mathieu Nacher. Il est directeur du centre d'investigation anti-Guyane de l'hôpital de Cayenne. Il a été joint par Nickerson Perdus.
Il y a plusieurs explications possibles. Il y a un, le fait que la Guyane est un territoire jeune. Donc effectivement, les personnes âgées sont les plus vulnérables au Covid. Le fait qu'il y ait aussi beaucoup de tests ces dernières semaines avec une politique assez agressive de dépistage, ce qui fait qu'on a un dénominateur qui est peut-être plus complet que ce qui est dans d'autres pays. Donc ça fait que les patients sont mieux pris en charge. Quand on compare au Suriname ou à l'Amapa, qui ont des conditions, on va dire, démographiques, climatiques, etc., le même, c'est pas du tout le même taux de mortalité. Il est beaucoup plus bas en Guyane.
5178 cas de Covid-19 en Guyane lundi, un 21e décès, un homme de 80 ans. Rappelons également que le nouveau Premier ministre Jean Castex sera à Cayenne ce dimanche. Direction maintenant la Guadeloupe. La Guadeloupe qui aura bientôt un nouveau préfet. Philippe Gustin vient en effet d'être nommé directeur de cabinet du nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Franck Aristide.
Les deux hommes se connaissent plutôt bien. Philippe Gustin avait en effet été directeur de cabinet de Sébastien Lecornu. C'était entre 2015 et 2016, à l'époque où ce dernier était président du conseil départemental de l'Eure. Aujourd'hui, ce sont 2 années en Guadeloupe que Philippe Gustin achève. Chez nous, il a bien évidemment été confronté à la crise du coronavirus, mais c'est sur un autre dossier qu'il s'est le plus fait remarquer, celui de l'eau. Durant de longs mois, il a vertement tensé les élus locaux sur leur gestion du précieux liquide, ce qui a parfois donné lieu à quelques tensions avec la classe politique guadeloupéenne. Sargasses, traitement des déchets, mais aussi menaces et même purement et simplement révocation d'élus ou encore dénonciation de la gestion des deniers publics par certaines collectivités. Il est vrai que Philippe Gustin occupait une partie importante du terrain avec une communication bien rodée et des prises de position, parfois source de polémiques. Et dès le départ, dès son arrivée aux Antilles avec sa mission post-Irma Saint-Martin, il avait donné le ton, nommé délégué interministériel à la reconstruction. Il avait, dans l'île du Nord, tenté de s'attaquer à l'épineux dossier de la construction en zone littorale.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, bon après-midi à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. D'ici là, portez-vous bien. À demain.